va?
Ça va, et vous?
Ça va.
Il y a un conseil d'entreprise.
Oui, je sais bien. On a réunion demain.
Ben oui, on va essayer de venir. On va essayer de venir demain. Ouais. Mais apparemment, les nouvelles sont pas très bonnes. Hein.
Non. Bon, mais de toute façon, on s'en doute. Voilà. On ne saura quand même pas quoi avant le 30.
Comment?
On ne saura quand même pas quoi avant le 30, je crois. Je sais pas.
Ouais. 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 Demain, c'est une assemblée générale du personnel?
Ouais, 14h. Ouais. C'est ça. Ouais, 14h. Ouais. Ouais.
On l'espère.
On ne sait rien du tout. Hein, alors, on laisse faire, on laisse faire. Tu voulais qu'on fasse.
Hein? Ça fait combien de temps qu'on parle des difficultés ici?
2 ans. Combien? 2 ans. Hein.
Ouais. 2 ans que ça va mal.
Disons que ça va mal, non, mais qu'on parle des difficultés financières. De... Il y a 2 ans qu'on n'a pas eu la prime. Hein.
Ouais. Ouais. Participation bénéfice, on est souvent en perte. Voilà. Oui, un an. 2 ans. Ouais, 2-3 ans.
Deux, trois ans.
On verra. Ouais. De toute façon,
on n'a pas le choix, hein. Faut suivre le trait, comme on dit.
C'est un peu une entreprise tout de même du passé, hein. C'est un peu une usine musée ici.
On n'a jamais investi à fur et à mesure, hein. Là le problème. On a.
Il paraît qu'Emile Zola va revenir. Hein. Il va intituler Germinal 2.
Germinal 2, le retour.
Le retour. Germinal 2. Hein.
Ben, vous avez un peu l'impression d'être des ouvriers du 19e siècle ou...
Non, ben, c'est-à-dire quand on voit par exemple les extensions d'autre part, le modernisme et tout, ici, bon, hein, ici, parfois, on en souffre du mal. Hein.
La semaine passée, quand on est dans la trémie, hein.
Ah, ouais.
C'est bon.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai dit, vous auriez dû venir la semaine passée, on était dans la trémie, dans une trémie ici.
C'est quoi une trémie?
Ben, le wagon de chemin de fer, là. On est en train de réparer l'intérieur. Vous auriez dû venir voir ce qu'on fait.
Quand on fait un crible.
Au 19e siècle.
Ah, le crible, c'est le 19e. Hein. Même le 18.
Le pire de tout, c'est qu'il y avait beaucoup de fer ici. Il y avait un grand transporteur qui partait de là-bas jusqu'au bâtiment là. Hein. Un grand transporteur. Tout ce qui a été fer, il a tout embarqué. Hein. Mais tout ce qui avait de la pollution dessus, ça, on a tout laissé là. Hein. J'ai été surveillant. J'ai commencé comme simple ouvrier ici à l'enfournement. Et... Puis j'ai passé régleur, puis j'ai passé surveillant de réserve, puis j'ai passé surveillant. Il y avait un régleur aussi dans mon équipe. Hein. Puis le régleur, il était réserve surveillant aussi. Ouais. J'avais Clément Rudy avec moi. Ouais, à l'hiver, il fallait faire attention pour ne pas que... Il y avait de l'eau qui venait en permanence hein, ici. À l'hiver, il fallait toujours qu'on laisse la vanne. Un quart ouvert pour dire d'avoir toujours de l'eau, pour ne pas que les eaux là-bas au-dessus gèlent, parce que ça tombait sur les fours, sur le coq tout chaud. Bon, quand l'eau sortait, elle était bouillante, mais puis ça retombait dans 2 bassins, là, de tout le côté, que ça refroidissait, mais on repompait cette eau-là pour remettre dans les bassins au-dessus, là, ici. Oui. On repompait les eaux-là pour remettre ici, au-dessus. Et alors, cette eau-là, quand l'eau de four sortait, pouf, on reprenait la même eau. Et, mais seulement, il en manque, puisqu'il y a des vapeurs et tout ça. Que... Et alors, ça faisait ça qu'il nous fallait toujours laisser un filet d'eau pour remplir toujours le bassin qu'il y avait là à côté. Hein. Ouais. Vous voyez le robinet là, c'est un robinet, ça. Ça, c'est un robinet à gaz. Ça veut dire que une fois la grande tige là, elle circulait toute la demi-heure. C'est ça que je vous disais tantôt avec le renversement.
Oui, oui.
Eh bien, c'est ça. Une fois, ça chauffait d'un côté, une fois, ça chauffait de l'autre. Maintenant, le four, c'est fait comme ça. Hein. Ça chauffe ici, ça rechauffe là, toujours comme ça. Et puis la fois d'après, c'est celle-là, et toujours une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
En alternance.
Ah oui. Mmh. Alterné. Ouais. Quelle catastrophe. Oh. Ici, tout le meilleur, il fallait que le régleur vienne hein,
ah oui.
Pour regarder s'il n'y avait pas un bras de décroché parce que ce n'est tenu qu'avec un fil. Hein. Il y a des fois le fil cassé. Ça fait, fallait réparer. Nous autres, il y a des bras ici. Vous voyez, il y a des bras ici. Hein. Bon, maintenant, ils ne vont plus. Hein. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a un clapet ici. Ça, c'est un clapet. Mm-hmm. Nous autres, on appelle ça. Mais quand on le relève, le clapet, ça baisse. Mm-hmm. Hein? Ou sinon, on pourrait avoir le feu dans le barillé. Le fumée, toutes les fumées des autres fours passent ici, mais on pouvait avoir le feu. Ça fait qu'il nous fallait toujours abaisser le bras. Et alors, les grandes chandelles là, c'est quand les extracteurs étaient en panne de l'autre côté. Alors, toute la fumée, elle passait par là. Et il fallait prendre une barre de fer avec un morceau de chiffon, tremper dans le mazout, et on allait foutre le feu. C'est ça que là, il y a une plus grande passerelle au-dessus.
Ça arrivait souvent, une panne d'extracteur?
Non. Il y en avait deux, hein. Ça fait, il y a des fois, on faisait l'entretien de l'autre. Ça, un quart d'heure que ça durait. On arrêtait celui-là, ben, on mettait à l'air libre. Un quart d'heure, ça, c'était rien. Ben, si c'était une journée, ben, alors, il fallait foutre le feu.
Ah oui.
Mais un quart d'heure, on le laissait aller ainsi. À ce temps-là, il mettait l'autre. Parce qu'il ne pouvait pas aspirer de l'air en même temps. Hein. Mm-hmm. Ah non. Hein. Une fois qu'il mettait en route, on devait refermer les vannes ici, hein, pour dire de renvoyer la fumée par là. Et ici, c'était l'enfourneuse. 15 tonnes de charbon. Il y en avait deux avant qu'on les répare. Parce que ceux-ci, il y a peut-être bon, 10 ans, 15 ans qu'ils ont été faits. Il y en avait deux, le 25 et le 26. Ces deux-là, c'était les deux plus mauvais. On pouvait mettre que 11 tonnes de charbon dedans, tellement que les murs étaient cassés et tout ça. Ben, il restait dedans, hein, quelquefois. J'ai déjà vu avec le gros bras hein, qui poussait 500 kilos de coke dedans. Ils ne voulaient pas sortir. Hein. Il fallait tout sortir à la mer. Hein. 500 kilos, pas plus. Hein. Ça, c'est le cahier de four. Parce que toutes les 8 heures, le premier, il relevait à 6h30, 7h au matin. Puis le deuxième, il relevait vers 2h, 2h30. Et le troisième, il relevait. Mais seulement, on devait compter toujours à quelle heure que le premier a été enfourné. Vous voyez, on devait compter. On devait regarder sur l'heure des fours qu'on enfournait. Et après, on comptait. Il fallait. Il y a des fois, c'est 36. Il y a des fois, c'était. Je ne sais plus. Tout de même dans le 20, 20. 28 par là, eh bien, il nous fallait compter pour toujours avoir 8 heures de décalage entre chaque chose. Et ici, ça ici, c'était le pouvoir calorifique, ça.
Ah, d'accord.
Vous voyez? Parce qu'un four, s'il n'avait pas, nous autres, on appelait ça le pouvoir calorifique, s'il n'avait pas 1250 degrés, on faisait l'addition de tout ça, puis, on nous donnait une correction de par là, de ce côté-là. Et pour, avec tout ça et la correction, on devait avoir 1250. Au-dessus, c'était bon, mais en bas, c'était pas bon. Les fours, on avait une flamme, mais elle ne chauffait pas comme elle devrait chauffer. Ouais.
Et ce truc-ci, c'est quoi exactement cette machine?
Ça, c'était l'appareil du coquard, ça. Parce que pour finir, ils ont décidé de mettre. Ils ont dépensé des sous qu'il ne fallait pas. Hein. Pour ne plus mettre un homme là-bas au coquard, parce que c'était un homme qui dirigeait, et ben, c'était avec ça. Et c'était pour eux avoir plus ou moins les heures. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait toujours de ceux qui trichaient. Hein. Ouais.
Et ici, c'était pas la commande du coquard, parce que j'ai vu qu'il y avait une clause de boîtier là-bas avec une petite manette. Là.
Hein?
Il y a un boîtier avec une manette là-bas, c'était ça qui commandait.
Oui, c'est ça. Là-bas. Dans la... il y avait une tour, là. Ouais. Au bout des deux cornières, ici, là. Il y avait une tour, là. Il y avait une tour. Et alors, avec une poignée, qu'on faisait aller le coquard par là, ou bien de ce côté-là. Hein. Ouais. Et alors, il y avait une vanne qu'on ouvrait. Parce que c'est un mouvement de va-et-vient à l'eau. Et si on ne remplissait pas le bac là-bas, toute l'eau, la pompe, elle continuait toujours à tourner. Et alors, ça repassait dans la vanne là, mais ça ressortait dans le bassin directement.
Ah ouais.
Mais une fois que la vanne était fermée, hop, ça montait directement là-bas au-dessus.
Ah oui, d'accord.
Voilà, ben mon nom c'est Freddy Dorestia. J'étais chef de service des fouilles. Je suis arrivé à la coquille en 1970, donc juste après que la fermeture du charbonnage, quoi. Donc quand la coquille a continué seule, quoi. Mon père il travaillait déjà comme surveillant, quoi, au four et tout. Et voilà, bon, j'étais à ce moment-là, je travaillais à la briqueterie à Surchiste.
Oui.
Donc je faisais les pauses, je faisais le matin, l'après-midi, mais bon, ça me payait pas très bien, quoi. Donc finalement, mon père m'avait dit, bah, viens à la coquille, là, pour faire les pauses matin, l'après-midi, bah, tu fais les pauses, les trois postes et tu gagneras plus. Et bon, ici, on travaillait samedi, dimanche, oui. Jour férié et tout. Et c'est comme ça que, voilà, ben, j'ai fait la demande et je suis rentré, quoi.
Et vous êtes rentré alors en tant qu'homme de four?
Non, j'étais à Distrigas quand je suis rentré. J'étais comme machiniste à Distrigas, quoi. Et ensuite, donc, il manquait il y avait des régleurs qui commençaient à prendre de l'âge et tout. Et le chef de service des fours, à l'époque, M. Martin, m'avait demandé si ça m'intéressait d'aller sur les fours pour apprendre à faire le régleur et tout. J'avais dit oui.
C'est comme ça que vous avez appris, alors?
Et c'est comme ça, ensuite, de Distrigas, je suis parti au four.
D'accord.
Oui. Alors, bon, j'ai passé par toutes les échelles, hein, bon, comme tout le monde. Hein.
Oui, donc en fait, vous avez eu une période d'apprentissage où vous avez été un jour en fourneur, un jour des fourneurs.
Voilà, oui, par toutes les fonctions, quoi. Et ensuite, après, j'ai appris le métier de régleur, quoi. Et voilà, après, j'ai fait le régleur, et ensuite, j'ai fait le surveillant, et après, j'ai fait le chef régleur, et pour terminer, j'ai chef de service. Quoi. On fait un métier dur, quoi. Alors, bon, si vous n'êtes pas dur, vous faites submerger, hein. Donc, il faut toujours garder les gens un petit peu abrite, hein, parce que sinon, vous n'en sortez plus. Et bon, et ensuite, on tournait tous les jours, samedi, dimanche, jour férié et tout. Alors, si vous n'étiez pas dur, parce que quand les jours fériés arrivaient, c'était des demandes de congés et tout, hein, donc il fallait être ferme. Mais bon, il y avait un quota à respecter. Quand le quota était épuisé, il fallait savoir dire non, quoi. Alors, si vous n'étiez pas dur, c'était le branle-bas de combat. Hein, donc, il fallait toujours pas montrer des moments de faiblesse. Hein. Ça ne nous empêchait pas d'être amis, hein, mais bon, dans le travail il doit être fait, il faut le faire, quoi. Hein. Bon, parce que j'ai vu sur la feuille que vous m'aviez envoyée, justement, hein, bon, la remarque que j'avais faite à Gérard Claude, qu'on était resté 20 minutes pour décaler la chaîne à Godet, et lui, sur 8 heures, il n'y était pas arrivé. Ben, c'est parce que quand vous arrivez, bon, une chaîne à Godet, donc c'est une chaîne qui reprenait tout le détritus, si vous voulez, hein, tout le petit coq et tout le bazar, ça montait, et alors ça allait dans un calibre, qui calibrait tout. Mais quand cette chaîne-là ne fonctionnait pas, il fallait tout mettre sur la cour. Bon. Et ensuite, il fallait tout repasser, en plus du travail qui était fait. Ben, c'était un travail qui demandait un temps infini. Donc, nous, justement, ces jours-là, on avait tout nettoyé. Tout était fini, tout était nickel et tout. Et voilà. Bon, ça arrive que la chaîne elle cale, hein. C'était pas cette question-là.
Apparemment, ça arrivait souvent.
Oui. Mais alors, on laisse ça sur le côté, on met sur la cour et terminé, hein. C'est pour les autres.
Parce qu'on laisse ça pour l'équipe suivante.
Pour l'équipe suivante. Mais finalement, nous, voilà, au matin, on avait passé son temps tout nettoyé et tout. On arrive à 6h au matin, chaîne à godet calée, la cour qui était remplie et tout, ben ça vous met hors de vous et tout.
Ça met en rogne.
Bon, ensuite, on se met à nettoyer, on reste 20 minutes pour la décaler, et voilà, le bazar qui retourne. Alors qu'eux, sur 8 heures de temps, ils ont préféré mettre sur la cour que de s'y mettre. Alors, voilà les propos virulents. Bon, mais c'était pas méchant, c'est parce que, bon, lui, il était le responsable de l'équipe, c'est à lui à commander les gens à nettoyer. Hein, c'est pour ça qu'il fallait mettre la pression aussi, hein, leur faire comprendre que...
Je peux comprendre.
Oui. Bon, en général, un surveillant, c'était un ancien régleur, quoi. Donc, il faisait le régleur. Bon, en faisant le régleur, ben, il était toujours en communication avec le surveillant et tout. C'était un peu l'adjoint du surveillant, quoi. Donc, ils apprenaient le métier tout en allant. C'était très dur parce que souvent, bon, quand il y avait des portes qui étaient délaissées, normalement, il devait en faire 3 par poste. Donc, sur 8 heures de travail, il devait en faire 3. Mais bon, surtout en été, quand il fait déjà très chaud, vous avez une porte qui pesait 3 tonnes d'ailleurs. Hein, elle était chaude, on l'enlevait du four, elle était très chaude et tout, donc c'est parce que le goudron collait sur les côtés. Mais bon, si on n'en nettoyait pas régulièrement, la couche de goudron augmentait et ensuite on avait du mal... à remettre les portes, quoi. Et alors, on abîmait les cadres et
tout. Il y avait des flammes sur
les... Il y avait des flammes sur les côtés. Francis, donc c'est ça qu'on a insisté sur le nettoyage des portes, mais il fallait insister beaucoup aussi, parce que justement, ils n'aimaient pas de le faire et tout. Et c'est vrai qu'on était très mal outillés aussi. Hein. On avait des grattoirs, parfois, qui ne taillaient pas, mais bon, le matin, l'atelier était ouvert. On savait aller les passer à la meule pour les aiguiser et tout, mais l'après-midi et la nuit, l'atelier était fermé, donc on ne savait pas y aller.
Donc vous étiez un peu seul durant la nuit, et il fallait se débrouiller, c'est ça?
Ben oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, quand ça ne taillait plus, bon, oh, il est bon, hein. On chipotait un petit peu, et après on remettait la porte. Et surtout que, bon, il n'avait pas tellement beaucoup de temps non plus pour la faire, parce qu'une fois qu'on enlevait la porte du four, ça refroidissait le four aussi.
Oui, hein, donc les briques s'abîment.
Les briques, oui. Hein, voilà, c'est ça. Ça a toujours été l'éternel problème, c'est le nettoyage des portes. Mais enfin, on a toujours vécu comme ça. Hein.
J'étais au produit fini. Donc, je chargeais uniquement le coq.
Ah, tu étais, tu étais bulliste alors?
Ouais, voilà, oui, c'est ça. Mm-hmm. Avant de commencer, j'ai des commandes sur la cour, hein, parce que j'ai commencé
au balai.
Vraiment, hein, c'était à la limite. Hein. Je sortais de mon service militaire, c'est sans diplôme. J'ai trouvé du boulot ici, tout près de la maison, vu que je reste toujours au. Donc, et après, c'est un petit peu à la fois, ben, je suis monté, si on peut appeler ça, en grâce, mais enfin, il fallait un petit peu montrer ce qu'on savait faire, là, pour ne pas rester tout le temps comme petit manœuvre. Ben, il fallait un petit peu montrer, là, parce que ce n'était pas agréable de travailler comme manœuvre ici. Hein. En été, ça allait, on était tout noir. En hiver, il fallait des bottes tout le temps, parce que c'était du charbon partout. Hein. Donc, dès qu'il pleuvait un petit peu, là, c'était terrible, enfin. Ça.
Donc, tu travaillais à côté du lavoir, j'imagine.
Voilà. Il y avait ici, tout ça ici, c'était du coq qu'il y avait ici. Et c'est la partie que vous avez ici derrière vous, c'était du charbon. C'était là qu'on stockait le charbon. Et ici, il y avait un grand transporteur qui démarrait de là-bas, d'au-dessus, et qui venait ici. De sur la photo, ben, tout ça est encore. Tout le gros calipe était par ici. Tout ce qui était environ aux alentours de 300-400 de diamètre était ici. Et tous les petits calipes étaient dans l'autre cour. Tous les gros calipes, ils gardaient ici parce que c'était ici. C'est qu'on, ici, anciennement, il y avait un tamiseur, si on peut appeler ça. Et on stockait, voilà, c'est ça. Et après, ben, on repassait, c'est tout le coq qu'il y avait ici, là, pour avoir c'est le calibre que le client voulait, enfin. Encore une fois, c'est quand
on ne pouvait pas le dire à l'époque, mais enfin, entre guillemets, pour nous et pour les actionnaires, ben, c'était bien quand il pleuvait.
Pour la poussière.
Ben, pour le coq, il était un peu plus lourd. Mm-hmm. Vous voyez ça, ben, ça faisait... C'est quand on avait c'est des étés, là, hein, qu'on avait des 25 à 30 degrés, ben, là, c'est le coq était tellement sec, là, que, hein, il fallait que les camions, par exemple... c'est quand ils partaient, parce que c'était c'est beaucoup des camions avec des bennes en aluminium. Ben, pour arriver à 22, 23 tonnes, il fallait bien les charger, autrement, ils ne partaient pas. Enfin. Ici, moi, sur les fours, c'est quand j'ai commencé, j'ai peut-être travaillé deux ans, peut-être trois ans ou plus que j'ai travaillé sur les fours ici. Mais étant donné que je ne me plais. Enfin, les pauses, ça ne m'arrangeait pas, parce que j'avais mon épouse qui travaillait à l'époque aussi à pause, hein, qui travaillait de nuit aussi, et en ayant une petite fille, donc je disais que ce n'était pas possible. Hein. Mais il a fallu un bon bout de temps là, pour dire qu'ils me remettent sur la cour, enfin, c'est, comme il disait. C'est... Pour le peu que je me souviens encore, il y avait, ça il disparaît aussi, il y a un autre clapet, un couvercle qui revient ici. Et ça, il faut ouvrir ceci, tout ça, avant de sortir le coq dehors. Ah oui. Il fallait que tout ça soit ouvert et tous les clapets ici soient ouverts avant d'ouvrir la porte là et la porte ici. Il a pris un tel charbon dedans, mais c'est tout ça. Il fallait refermer tout ça ici. Et puis seulement venir se refermer sur le clapet ici. C'était tout un travail, enfin, il ne fallait pas faire d'erreur non plus là-dedans. Là, surtout que c'était beaucoup du manuel, enfin. Ouais. On ne peut pas dire que c'était... Et ici, oui, il est encore. Une fois, je ne saurais plus dire, enfin, mon camarade, si vous l'expliquerez, mais une fois, c'est toutes les semaines, ils ont enlevé un couvercle. Ils étaient à 3-4. Et ils faisaient dedans le tuyau ici, ils avaient des raclettes. Ils faisaient de gauche à droite là. Ouais, c'est la grosse matière là qui coulait et puis que ça partait là. Que ça servait juste de cheminée, enfin. Ah, mais il fallait quand même qu'eux se nettoient quand même tout ça pour que le couvercle vienne se remettre là.
Voilà, je suis Charny Guidin, dans l'usine à la coquerie. Je fais fonction de machiniste et adjoint au chef de service. Moi, j'étais au départ grutier ici, au ce qu'on on disait, le culbuteur. C'est que je chargeais le charbon qui venait par wagon. On chargeait, on les montait en instance sur la journée dans le lavoir, qu'on appelait ça. Là, le charbon était stocké dans des espèces de tours. C'était aussi pour charger des trémies, pour envoyer... Enfin, c'était un système de service fermé. C'est...
On peut continuer ou pas?
Bonjour, chef.
Oh, mon camarade! Mais je sens, s'il vous plaît.
Ça va? Ah, Gilbert!
Salut, chou.
À la fermeture.
Oui, la fermeture. Est-ce que tu es revenu une fois sur le site ou jamais?
J'ai passé. Je passe souvent quand même. Je n'habite pas loin, donc je passe souvent en Derlu. Ouais, quand on passe devant l'usine, ben, ça a toujours un petit pincement au cœur. Ben, j'ai eu la chance de retrouver du boulot, mais comme je dis, après 23 années passées dans la même société, on a du mal à s'habituer à autre part.
Parce que tu travailles alors?
Ouais, j'ai retrouvé assez facilement et rapidement du boulot quand même.
Et tu fais...
Je suis encore chauffeur de grue et chauffeur de bulle.
Mais c'est plus pareil?
Non, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose.
Ah oui, quelque chose comme ça?
Ben ici, je crois que c'est en 2000 qu'on avait fait, la direction avait organisé de nous faire des photos avec un brevet de l'usine qu'on a gardé en souvenir et je les ai encore. Et moi, j'ai eu la chance que le jour de la fermeture de l'entreprise, j'ai eu ma médaille de 25 ans d'années de travail ici. Donc ça, c'est quand même un souvenir qui est qui n'est pas si fier d'avoir quand même 25 ans de travail, mais j'aurais voulu avoir celle de 30 et 35 ans et la suivante ici. C'est vrai qu'en général, quand on rentrait à la maison, il fallait encore une fois se relaver parce que la crasse ressortait, comme on disait. Alors, il fallait au moins se laver deux fois. Sinon, c'est vrai que les draps n'étaient pas fort blancs. Mais la femme reprenait bien. Elle savait qu'on était bien. On gagnait bien sa vie aussi.
Ça faisait partie de la vie.
Ouais. C'est la même que la femme d'un mineur. Hein. C'était la même chose. Ouais. Nous autres, c'était genre d'une mine, mais c'est à ciel ouvert. Bon, c'est moins toxique, mais enfin, on aime bien ce boulot. Et j'ai retrouvé des anciens collègues de la coquerie qui travaillent maintenant avec moi sur le site de Marcinelle aussi, à Carcite. Donc, on est encore ensemble. Allez.
D'accord, ben merci.
Ben de rien.
Allez.
Merci beaucoup.
Une année, si on n'avait pas le docteur des antibiotiques, t'es arrivé, t'as viré, c'est pas quoi. Grâce à ça, je me suis cassé le tendon d'Achille. On n'a pas su réparer, hein. C'est pas un accident, c'est une maladie, tu veux. Hein. Jacques Surin, j'ai été machiniste au sous-produit. Ça consiste à extraire le gaz de four à coque, il y a toutes sortes d'appareillages, pour envoyer la centrale de Montsou en dernier lieu. Avant ça, on l'a envoyé à Péronne. Un jour, il y a le gars de Péronne qui arrive. Il m'a dit, oh, je joue de la bonne pression, c'est magnifique. Et le gars de Péronne arrive, il n'a pas de GSM. Arrête-toi, il a une foutue énorme à Péronne. C'était beau, hein. Il passait dans la caisse purante qu'on nettoyait, toutes sortes de saletés là-dedans, le goudron, du benzol, la phtalène, tout ça, hein. Toutes sortes de mauvais. Hein. C'est ça que j'ai respiré. Que je suis arrangé comme ça. Mais beaucoup disputaient avec lui. Hein. Ah, oui, c'était le gars principal. Mais malgré tout, ça s'en avait toujours. Il avait une dure tête. Il avait une tête dure comme du bois. Hein. On aspirait le gaz passait dans des laveurs, il passait dans des goudronneurs, après il passait dans la caisse épurante, il rentrait, quand tout était nettoyé convenablement, il rentrait dans le gazomètre. Et nous, on leur tirait du gazomètre avec des grosses machines, en premier temps, des clarks, on appelait ça. Des machines comme le bazar ici, hein, qui tournaient au gaz. Au gaz, c'est pour remettre en route la machine-là. Elle avait des volants énormes, comme on lançait avec un compresseur à 18 kg. Et quand il tournait, il fallait la technique, on écoutait à l'oreille. Et quand c'était une technique. Et quand le gaz arrivait bien, paf, on mettait. Et ça démarrait souvent. Ça durait un mois, l'apprentissage-là. C'était sérieux, hein, travailler dans le gaz comme ça, hein. Il avait plein de colliers. À ce moment-là, il fallait survivre beaucoup, hein, parce qu'on s'alimentait au gaz naturel. Et qu'elle avait une panne, un bon machiniste sans vanter comme moi, j'arrivais en allant vite à m'alimenter un petit peu sur le refoulement de notre gaz. Ben, la machine n'allait pas aussi bien. Hein. Il a le sous-produit. C'est la même machine. On extrayait le gaz des fours à coque qu'on distillait. Et après, le goudron et le gaz. Ça passait dans des goudronneurs qui allaient dans un bassin, décantation, et de temps en temps, tous les deux pouces, on décantait, quoi, appelait ça, on retirait le mauvais goudron, collait cela, et on tapait le bon goudron dans une autre citerne que les camions venaient chercher. Le plus gros problème que j'ai eu, je ne pourrais pas le dire après, vous l'effacerez, hein, c'est la question boisson. Oui, oui, il arrivait quelquefois, et après, il y a un petit peu de racisme, moi, à cause de la boisson aussi. Et Jacques va intervenir pour ça. Ça renvoie toujours à l'amiable. Ça passe au bureau. Hein. Oui, c'est rare quand ça passe au bureau. Et quand je passe au bureau, c'était M. Bernard. Lui qui disait non, c'était non. Hein. Tandis que M. Surin, je discutais avec lui. Je n'avais pas demandé à quelqu'un à la porte. Quart d'heure après Jacques, dans mon bureau. J'avais gagné. Je sais bien ce que je disais. Jamais. On n'a pas fait un jour de grève sur mes trois mandats et demi que j'ai fait. Hein. On négociait. J'arrête de travail quand les autres faisaient grève. On ne pouvait pas arrêter les fours. Hein. L'arrêté était terminé. Les autres faisaient grève. Je venais faire piquer de grève ici. Parce que hein, je faisais grève avec mes délégués, mais les ouvriers travaillaient. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas arrêter les fours. C'était la fin de l'usine. Mais ici, on ne pouvait pas parce qu'il y avait la vétusté, la question chauffée, trop fort les fours ici. Non, mais il y avait des usines en veau, par exemple, qui étaient venues en bas, tu sais, pour faire arrêter la coquerie dans mes domaines. Hein. Après, j'ai fait seulement prendre le téléphone, téléphoner aux flics. Je me retourne, plus personne. Parti. Oui. Je vais vous l'expliquer qu'on ne pouvait pas arrêter. Non, il fallait arrêter. Non, ça va. Oui. J'arrive toujours avec le sourire. Quand j'arrivais au four à coque, il y avait des problèmes. Et vous riez court bien. Ah, bon, vous riez court bien. Ben, c'est ton problème. Je vais l'arranger. Mais après, je ne peux plus vous faire. Hein, tout à cœur. D'ailleurs, mon chef de service de Brigitte, quand j'avais déjà mal l'estomac avant, après, j'ai attrapé des ulcères à l'estomac. Tu t'énerves plus pourtant. J'ai fait beaucoup de cinéma quand je m'énervais avec Dudaz. Il est encore. Il est tourmenté quelquefois, surtout avec lui. Il était un petit peu imbu de sa personne. D'ailleurs, M. Sirin m'avait dit, bon, il descend trois marches, mais quand on serait plus large, quand on serait plus large, moi, on sera de quatre. Mais pas de sanglisserie, là, que je dis. Moi, après, ça a été, ça a commencé à aller mal quand je suis parti, qu'est-ce que j'ai tenté. J'ai pas connu tout le presque tous les jours, hein, de soutenir mon ancien, mon délégué. Que Philippe de Bousson, c'est moi qui l'ai fait embaucher, c'est moi qui l'ai formé. J'étais là, quand même, M. Bousson, d'une réponse au produit, hein. C'est de là que je revenais. C'était mon coin. Même que ce produit, une fois, M. de Brussy avait fait souder dans Bézol, sans, permis de feuille. Oh, j'ai cours des mains, là. C'est normal, hein.
Mais c'est dangereux pendant qu'ils sont là, c'est pas dangereux après.
Je ne sais pas. Il a eu bien une explosion qui avait soudé, mais je ne sais pas si c'était avant ou bien après. On ne s'en rend pas compte. On a eu des masques quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. On n'a rien. On allait dans le bazar, dans le goudron. J'ai fait une fois arrêter mon fils qui travaillait là, après moi que les feuilles. Et un de ses collègues, j'arrive à la maison le soir et après-midi. Tout rouge, tout pelé comme ça. Il travaillait dans une machine, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Il était tout pelé avec le bazar, le naphtaline shoot. Plus qu'un ne serait plus. Je suis du bois. Ça oui. C'était mon métier à l'origine de menuisier. Et je suis du bois brûlé, je pourrais apprendre du coup à longueur, mais je le prends d'un mètre, comme ça je le coupe. La doctoresse m'a dit que je ne pouvais pas arrêter, mais la pêche, ça oui. Hein. Oui. Juin, juillet, août, c'est bon temps.
La bonne période.
Bon, dans ma caravane. Déjà quand je travaillais, parce que comme j'étais délégué syndical, on ne pouvait plus faire d'heures, hein. Mais les heures que, par exemple, j'étais une nuit, j'avais une réunion syndicale à Bruxelles, je venais travailler quand même. Des heures à prendre, ça se pouvait accumuler. Parce que un mois et demi, deux mois avant, en vacances. Et je revenais tous les vendredis faire ma permanence. Après, quand t'es Philippe, non, Philippe était sérieux. Ah. Quel autre. Et voilà, c'est bien.
Il y a Frédéric Richard qui était ici, là.
Ouais, ouais,
on a fait. C'était, j'ai commencé avec lui comme surveillant. Et c'était Albert Pilette. Il a monté un chef de service pendant tout que. Moi, j'ai travaillé 20 ans avec lui. Donc, c'est déjà formé, vous voyez. Il y a trois pauses. Jamais été malade, tu sais, comme... J'ai été blessé deux fois sur mes 20 ans. Ben, blessé, c'est...
Et où
est-ce que
vous travaillez, vous, en général?
Sur le four, même. Enfin, j'ai fait les deux machines, les trois machines sur le four. J'ai fait chauffeur... On changeait les remorques en dessous au chargement. Les mains ici, tout le long, décrocher, prendre une vitre et remettre. Et chaque fois que l'autre klaxonnait, il fallait avancer d'un mètre pour charger. Après, j'ai été au chargement, j'ai été à la défourneuse, au guide saumon. Mon fils a fait le même, mais lui, après, il a été au sous-produit un petit peu. D'ailleurs, je n'oserais pas, je ne vais pas dire maintenant, hein, mais je n'aurais pas osé mettre une chemise blanche samedi ou dimanche. Hein. Parce que le charbon, il repasse par rapport à la transpiration. Deux heures après qu'on le suit sous le noir. Ah oui, parce que c'était vraiment de cras, de goudron. On ne sait pas s'imaginer le mélange qu'il y avait. Il y avait du goudron, il y avait tout hein, là-dedans. J'ai tout fait. À la défournaise, au guide saumon, au chargement, sur le char, à l'enfournement, chauffeur de camion pour les remorques, qu'il faut ajuster, et pour finir, pompier. Enfin, je suis rentré comme pompier parce qu'il fallait un pompier en 82. Il n'y avait pas d'accord de pompier à ce moment-là. Et pour être dans la loi, il fallait. Comment se dire ça? À service incendie, là, je vais y aller. Ainsi, ils étaient au moins un. Hein. Et moi, j'étais pompier en beige. Donc, l'enfournement, c'était au-dessus.
L'enfournement, c'est au-dessus, oui. Pardon.
Ça, c'est la tour. Le charbon était dans la tour au-dessus. À la fenêtre qui est cassée, là. C'était. Il y avait un char, avec des compartiments. Ils ont chargé avec le poids qui était dit qu'on devait mettre dedans. C'était 15 tonnes, on a fait assez de charbon poussé à des quoi.
Par four.
Un char. Et dans le char, il y avait 5 compartiments. Le premier, il fallait charger à fond, à fond, à fond. Et les autres, moitié-moitié. Parce que le four, d'ici, il doit être tout droit. Et en sortant, il doit être en biseau. Parce qu'il se, on le pousse par ici et il sortait de l'autre côté.
Oui.
Et en poussant pour avoir un biseau, pour savoir plus facile pour lui sortir.
Ah, d'accord, qu'il n'y ait
parce qu'ici, il y avait une crémaillère, comment, un bras, et il poussait tout le coq. De l'autre côté, il y avait un char, le coquard.
Le coquard, oui.
Et le coq tombait dedans. Et il rentrait dans la douche pour refroidir. Ici, en dessous. C'était la douche pour refroidir. Et après, là, on remontait sur le quai, on le vidait, on le tirait sur un tapis pour monter au chargement. Ouais, sinon, c'était bien. Ouais. Enfin, on a trop. Mais la poussière, c'était des grains de coq. Hein, c'était pas évident. Hein.
Monsieur Bernard, je l'ai connu, c'est d'ailleurs parce que je le connaissais très bien que je suis rentré là-bas, que, mais je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler, tout jeune. Oui, parce que nous étions ensemble comme sauveteurs guides pour le charbonnage. Et alors nous allions à la centrale de sauvetage de Marcinelle. Là, on faisait régulièrement des exercices. Quoi. Et j'étais dans le groupe avec monsieur Bernard, c'est là que j'ai connu. Alors, on devait rester chez soi.
Non, non, tu allais travailler le matin.
Comment ?
Tu allais travailler le matin.
Oui, bon, on devait rester chez soi, on ne pouvait pas quitter, on devait être joignable tout le temps. Et alors, oui, au matin, j'allais jusque-là voir les rapports, s'il n'y avait rien de spécial.
Ah oui.
Le samedi et le dimanche, les deux jours.
Oui, les deux jours. Bah, au charbonnage, c'était la même chose. Là, j'ai connu ça.
Ah ouais, en tant que responsable, vous étiez obligé d'être à disposition. Et l'ambiance à la coquille, comment la jugiez-vous? L'ambiance générale.
Bon, au sous-produit, on s'entendait bien. Hein. Mais avec les fours, c'était deux divisions différentes et ça. On s'entendait moins bien, si vous voulez, avec le genre des fours. Ben, écoutez, moi je suis arrivé au coquerie avec une très mauvaise réputation, une réputation de. Ah oui, de serrer le.
Ah oui.
Oui. Parce que, je ne sais pas comment, mais il y avait un membre des sous-produits qui avait une connaissance qui m'avait connu ailleurs, quoi.
Ah oui.
Et qui m'avait fait. Quand je suis arrivé, j'avais déjà à l'avance une réputation épouvantable. Ben finalement, ça s'est bien passé, mon époque. Non, et le personnel qui venait de l'extérieur, on a eu à un moment donné une embauche. Excusez-moi, j'ai fait une congestion lourde, même pas. J'ai eu pas mal de problèmes. Mais. On a à un moment donné embauché du personnel qui venait par l'intermédiaire du conseil du forum. Mais ces gens, ils sont pas restés, c'était des jeunes pourtant, ils ne sont pas restés, mais un jour, deux jours, ils disparaissaient.
Ah oui, ils étaient effrayés par.
Oui, sans même dire pourquoi, ils n'y avaient plus. Quoi. Ça a duré un petit temps, et puis pour finir, on a suspendu ça. On a plus.
Parce que c'est trop décevant.
Oui. Puis c'est un métier qui est sale, qui est dur, c'est un métier dur finalement, qui est sale, malsain.
Mm-hmm. Ah oui, donc c'est pas une légende, ce genre
non,
de...
Non, non, ce n'est pas une légende.
Donc c'était vraiment... c'est un endroit malsain de toute manière.
Oui. Maintenant... C'était des odeurs tenaces, hein. Allez, son papier à tartines, je oui, devrais le jeter bien. Tellement ça sentait. Ah, ses vêtements,
Sinon, du personnel des sous-produits, j'en ai certainement 4 ou 5 qui sont décédés des
cancers. Monsieur Surin aussi.
Et Monsieur Surin aussi.
Ah oui.
Mais seulement, il y en a beaucoup qui ne prenaient aucune précaution. Malgré qu'on les obligeait à le prendre, ils ne voulaient pas. Mm-hmm. Ils ne voulaient pas.
Mm-hmm. Et enfin, ça c'est un peu Toi-même, tu as dit combien de fois j'ai mis les mains dans le bain ou sans gants, quoi.
Dans le bain, non. Non, j'aurais lavé mes gants dans le bain, mais je ne mettais pas mes mains dans. Mais il y en a comme allez, l'ancien votre maître. J'oublie, moi.
Victor.
Non, pas Victor. Le polonais, là. Ouf.
Oui.
Mais il lavait son linge dans le bain-jol.
Ah oui, mais il paraît que ça se faisait souvent.
Mais à main nue, dedans. Oui, ah mais, oui. Oui, mais il a eu un cancer, il a souffert énormément. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui, parce que mon beau-père travaillait, était ouvrier en coquille aussi, au sous-produit, à la coquille marchienne. Et il me racontait aussi qu'il y avait des gens qui lavaient leur linge dans les produits.
Hein. Ah oui.
Parce qu'il disait que c'était comme du produit de nettoyage à sec.
Ah oui, c'est vrai.
Donc d'abord, la toute première question, c'est de savoir quand est-ce que tu as commencé, c'est-à-dire à quel âge ?
Moi, je suis rentré le 17 janvier 1988.
Et tu avais quel âge ?
J'avais, en 88, j'avais 21 ans.
Comme beaucoup, alors tu as commencé assez jeune.
Voilà. Mmh. J'ai commencé à la cour, donc sur la manutention.
La manutention, tu conduisais un bulle ?
Non, quand j'ai commencé, j'étais sur la cour, on travaillait à voie, on faisait les voies ferrées, on travaillait au culbuteur quand il y avait les rames de charbon.
Ça veut dire donc vider les rames ?
Voilà, c'est ça.
D'accord. Ouais. Quelle était ta première... Est-ce que tu as un souvenir d'une première impression quand tu es arrivé sur la coquerie ?
Bah, c'était... Mon impression, c'était que c'était convivial, quoi. C'était familial, beaucoup. Enfin, c'est l'impression qu'on avait, quoi. Tout le monde se connaissait et tout le monde se respectait, surtout.
C'est pas forcément ce qu'on nous a dit.
Non.
On nous a dit que, par rapport à la hiérarchie, il y avait des fois où ça manquait de respect.
Ouais, non, moi, je parle au niveau des ouvriers.
Au
niveau de la hiérarchie, disons que les anciens... Quand moi, j'ai commencé, c'était le directeur... C'était M. Bernard, et par là, le sous-directeur, c'était M. Surin. Et ces gens-là ne passaient jamais à côté des ouvriers sans dire bonjour.
D'accord.
Après, quand d'autres sont venus, comme M. Disneyki, M. Gogol, ça a changé, quoi, évidemment. On a toujours dit que ces gens-là, c'était les liquidateurs quand ils sont arrivés, donc...
Dès leur arrivée, alors.
Bah, c'est le sentiment que tout le monde a eu, quoi.
Donc vous aviez compris ce qu'elle est...
Bah, c'est ça, oui.
Et donc après, vous êtes passé au four, alors ?
Après, c'est-à-dire que j'ai dû... Donc, quand je suis rentré le 17 janvier, j'ai eu deux contrats de 6 mois. Et je devais rentrer à l'armée le 4 juillet. Et je me suis blessé au genou. Donc, je suis rentré en clinique. Donc, ça a été reporté. On m'a refait un deuxième contrat de 6 mois. Mais je suis rentré à l'armée, qu'il me reste encore un mois à faire. Donc, je suis revenu et j'ai achevé mon mois qui me manquait. Et là, on m'a dit que sur la cour, il fallait plus personne. Quoi. Et moi, j'ai dit, bah, écoutez, si c'est même pour travailler sur la four, le travail impôt, ça ne me dérange pas. Et c'est comme ça que j'ai eu un contrat à durée indéterminée sur la four.
Pourquoi il ne fallait plus personne sur la cour ? On a toujours besoin ?
Bah, parce qu'à ce moment-là, il manquait pas de personnel. Quoi.
Ah, ils avaient déjà du
ouais,
monde.
Ils avaient du monde à ce moment-là.
Et sur les fours, est-ce que tu as ressenti des difficultés toutes particulières ? Où ça a été ? Tu faisais
non,
du tournement ?
Ça a été. Comme tout le monde, hein, comme on s'attrape. Quand on arrive, on va aux trappes. Donc c'est lâcher le coq. Et puis évidemment, on part en formation directement à l'enfournement, un petit peu comme tout le monde. C'était le passage obligé, ça, l'enfournement.
D'accord.
Mais bon, c'est vrai que c'était un travail lourd et insalubre, surtout en été, mais sinon, bon, c'était... Ça allait, quoi. Mais au début, quand moi je suis arrivé, on était plus que ça dans les équipes. Et puis bon, il y a eu des gens qui sont partis à la retraite, des gens qui sont décédés, et qu'on n'a pas forcément renouvelé. Et puis la production a diminué aussi, donc...
Donc le travail n'était plus le même, il y avait moins de travail.
Il y a eu moins de travail, et puis ben, il y a des gens, on a doublé les fonctions, quoi. Il y a eu que, bon, les chauffeurs avaient forcément moins de travail de nuit, donc ils allaient peut-être à trappe ou au chargement, ou quelque chose comme ça. Puis il y a eu le fait que les régleurs, on commence à défourner ou aller au guide coq. Donc c'est ça qui a fait qu'à la fin, on n'était plus que des équipes de 7 ou 8 hommes. Mais au début, on était souvent 10 hommes. On avait très souvent un homme qui est au nettoyage, au début.
Oui, oui. Et donc, toi, tu es resté jusqu'à la fin ?
Non, moi, je suis parti avant.
T'es parti avant ?
Je suis parti avant, je suis parti le 9 septembre. Parce que j'avais... Bon, vous voyez bien, moi, j'avais vu où ça allait. Je m'en étais rendu compte, donc j'avais appris... Maintenant, je suis plafonneur. Mm-hmm. Donc, j'avais appris ce métier-là sur mes côtés. Donc, quand on était en repos, on travaillait donc 6 jours, 2 jours de repos. Ben, mes jours de repos, j'allais travailler dans une entreprise de plafonnage pour apprendre à plafonner, quoi.
Pour arrondir les fins de mois, etc.
Au début, je ne suis pas parti pour arrondir les fins de mois. J'ai fait ça, c'est pour apprendre un métier au cas où ça fermerait ici, quoi.
D'accord.
Et puis, ça marchait bien. Et quand je faisais la nuit ici, ben, je faisais la nuit, je rentrais chez moi, je reprenais une mallette, je repartais travailler. Et le patron là-bas a vu que ça allait bien, il m'a dit « Écoute, si tu veux quitter ton usine, tu viens, je t'embauche. » Et c'est comme ça que je suis parti. Mais quand je suis arrivé dans le bureau de M. Dzieżniecki, je lui ai dit « Ben voilà, je suis venu vous trouver pour que vous me mettiez dehors. » Et il m'a dit « Ben ne partez pas, on ne va pas fermer. » Le 9 septembre. Il m'a dit ça, bon, pas le 9, mais le 2-3 septembre, quoi. Et le 29 novembre, c'était fermé.
Je m'appelle Rhys Michel, j'étais ouvrier des fours à coques. Donc je faisais un peu de tour en remplacement avant d'avoir une place effective. Et ma dernière place, c'était donc guide saumon. Ben, c'était surtout parce que, donc, en habitant ici à Derlu tout près, mon père a travaillé au charbonnage. Donc j'avais beaucoup de connaissances dans la société, au niveau des ingénieurs, quoi, et même du personnel, des gens qui travaillaient là, j'en connaissais énormément. Et quand il y avait une place de libre, on m'a demandé si ça m'intéressait. Bon, ça, je n'avais pas de travail à ce moment-là, donc j'ai fini l'école. Donc je suis venu à ce moment-là me présenter pour avoir un poste. Quand on voyait un peu l'état des lieux, on ne pensait pas à cette époque-là, en sortant de l'école, qu'une société ainsi pouvait exister, quoi. On s'imagine une société bien moderne, tout nickel, quoi. Pas comme ici, quoi. Ici, c'était plutôt très ancien, quoi. Les poussières, à la limite, c'était pas encore si difficile que ça. Le pire, c'était surtout l'hiver. La période hivernale, là, c'était des fois pénible parce que bon, le charbon, évidemment, humide. Donc, il fallait le sortir des tours, le mettre dans le chariot. Quand il était dans le chariot, comme il collait vraiment, comme vraiment de la colle pour le mettre dans le four, c'était pas évident. À cette période, alors, tu restais jusque des fois une heure au-dessus d'un four. À ce moment-là, tu avais donc les gaz qui remontaient, du four, les poussières, la dureté du charbon, sur ta journée, plus la chaleur. C'était des fois, il y a des jours assis, on se disait, c'est pas possible, on va mourir, quoi. Ouais. Et alors, quand la journée était passée, on prenait sa douche, bon, ça allait mieux, quoi. Ça allait mieux, le lendemain, on revenait, bon, on n'était pas forcément à la même place, mais des fois, bon, le lendemain, le charbon, il allait mieux, il était plus sec. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'était pénible. C'était pas encore tellement le gel, hein. C'était l'humidité du charbon. Plus il y avait d'eau dedans, plus c'était difficile. Par contre, si le charbon était gelé, il descendait tout seul. C'était comme de la poudre.
D'accord. Donc il collait avec l'eau.
Ouais.
D'accord. C'est ça. Et alors, tu devais donner des coups de baramine. Comment ça se passait?
Ouais, on devait prendre des picots, piquer dedans. Des fois, toute l'équipe, pour faire un four à chaque four, l'équipe devait monter entièrement pour faire un four. Ah ouais. C'était des fois... Période-là, des fois c'était atroce. Et alors, bon, quand tout allait bien au niveau de la direction, que c'était un peu trop dur, qu'on demandait pour avoir un deuxième homme en renfort pour nous aider à mettre le charbon dedans, des fois on en obtenait un, des fois on n'en obtenait pas. Mais bon, ici.
Tu devais toujours te débrouiller de toute façon
pour
en fournir.
Ah oui. Mmh. Oui, et les fours qui n'étaient pas effectués, ça tombait sur l'équipe d'après. Il y avait des périodes, c'était assez souvent. Oui, c'était surtout à cause du temps, quoi. Mmh. D'ailleurs, quand on voyait bon, le printemps et l'été, beau soleil, ouais, on avait peut-être la chaleur, mais sur un four, on ne restait pas longtemps, quoi. On préférait ça parce que 5 minutes maximum, le four était fini, quoi. Walibi, c'est encore quelque chose, je dirais, d'assez amusant. Parce que nous autres, par moments, quand on voyait le matériel et avec ce qu'on devait travailler, à mon idée, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça.
À ce point-là.
À ce point-là.
Et quels sont les exemples alors? Parce que nous, on ne se rend pas compte.
Ben, si tu veux, par exemple, un exemple, même plusieurs, je peux t'en donner. Déjà, quand ils ont voulu moderniser, on s'est dit, bon, on va mettre tout sous air comprimé, tout ça, ça va bien marcher. Alors, aux ajusteurs, on leur a fait monter d'abord les tuyaux avec du téflon. Mm-hmm. En tant qu'ouvrier, tu vois qu'on met du téflon pour les raccords, tu te dis, écoutez, la chaleur, Teflon ne tiendra jamais. Et quand tu réponds, la chaleur, ça va souder le Teflon, il n'y aura pas de fouette. Et alors, vous chargez une fois les cuves, vous faites 24 heures avec. Tu ne savais même pas faire un four sans mettre le tuyau d'air dessus pour ouvrir les portes. Tu voyais des fois les portes, quand on mettait un four dedans, tu te disais, les portes vont-elles tenir? Ou alors, des fois, en période hivernale, tu avais le chariot. Quand tu devais aller au fond de la batterie, tu le lançais, il s'arrêtait, il n'atteignait pas le fond de la batterie. Tu devais recommencer 5 fois, 10 fois, voir qu'il arrive au dernier four. Moi, je pense plutôt que c'est un manque d'investissement. Tant que ça tourne, qu'on sait prendre de l'argent, on prend. Et après, quand il faut se mettre aux normes, c'est préférable de fermer que de continuer. Quoi. Parce que l'investissement, d'une fois, est beaucoup trop élevé, vu qu'ils ont eu beaucoup de dérogations pour se mettre en ordre. Et c'était plutôt un profit. Pour l'année d'après, les carnets de commandes, en réalité, ils étaient pleins, on n'avait même pas assez de four pour fournir les clients. J'ai pas de regrets, dans le fond. Hein, mais le seul regret que j'ai, c'est que la société, on aurait dû investir et qu'elle soit encore, à l'heure actuelle, ouverte. Quoi. Parce que bon, il y a des gens qui se plaignaient, sales, poussière et ça, mais chaque secteur a ses avantages, ses inconvénients. Quoi. Je préfère avoir un salaire et une place fixe que de devoir commencer, on te dit, tu vas aller là-bas, une semaine, un jour, tu sais pas, pour combien de temps t'en as. Quoi.
Je m'appelle Philippe Dubousson, né le 15 du 453 à Saint-Paul. Alors, je suis natif d'Anderlu. Et j'ai brûlé ma vie assez bien. Par exemple, j'étais en marine marchande, puis j'ai arrêté, je me suis marié. Et de fil en aiguille, de boulot en boulot, je suis venu au coquille d'Anderlu en 1982. D'accord. J'étais à l'atelier mécanique, à l'entretien général pour toute l'entreprise. Donc, s'il y avait des réparations à faire, aussi bien que les gens des fours, parce qu'il y avait un atelier spécifique pour les fours aussi d'entretien, nous allions avec eux. Nous faisions les entretiens des sous-produits, donc machines à claque, l'extraction de gaz et tout ce qui s'ensuit, plus les camions et tout ce qui est mécanique. De l'atelier mécanique, je suis passé aussi à la chaufferie, responsable à la chaufferie avec un collègue, qui malheureusement est en clinique. Et là, on s'occupait de la production de la vapeur, en même temps, tout ce qui est réchauffement, gaz et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'était la chaufferie. Puis, je suis rentré dans le mouvement syndical des coquilles d'Anderlu via M. Jacques Surin, qui était délégué principal. J'ai suivi les formations et puis je l'ai remplacé comme délégué principal. Et les élections précédentes, je suis passé donc vraiment ce qui s'appelle le responsable des délégués aux coquilles d'Anderlu. J'ai continué comme délégué principal. J'ai eu les restructurations, qui malheureusement sont venus, supprimer le personnel et tout ce qui s'ensuit. Et alors j'ai eu aussi la fermeture.
En 79, la restructuration
En 79, là, malheureusement, je n'étais pas là. Ah. En 79, il y avait déjà eu un avis de fermeture qui ne s'est pas fait, puisqu'il y a eu une reprise du coq, une redemande du coq, donc ça ne s'est pas fait. Mais puis avec les années, dans les années 80, ça allait encore, et puis ça a commencé à diminuer. Médiateur, négociateur entre le personnel et la direction. Donc nous avions un conseil d'administration, comme dans toutes les entreprises, conseil d'entreprise, conseil de sécurité, et vous aviez plusieurs personnes qui avaient plusieurs rôles, en délégation syndicale, ce qui est sécurité, un groupe, et un groupe en délégation, ce qui est conseil d'entreprise, pour tout ce qui est finance, des décisions à prendre ou pas, sur s'il y a des travaux à faire ou tout ce qui s'ensuit de ce côté-là. Les délégués sont entre le marteau et l'enclume. Hein. On ne sait jamais toujours satisfaire aux demandes de tout le monde. Aller à la direction, ce n'est pas toujours évident, surtout quand il y a eu des restructurations et que le personnel n'était pas habitué à travailler. Par exemple, au four, il travaillait à 14 ou 15 personnes. Et puis on a diminué. Puis quand la direction est arrivée, la nouvelle direction, avec les statistiques qu'ils ont, qui manquait autant d'ouvriers, parce que c'est comme ça qu'on voit, tiens, sur une année, il manque quand même autant d'ouvriers par poste. On n'est pas obligé d'avoir autant d'ouvriers. Donc ils se sont retrouvés à 9, 10, qu'ils étaient à 15. Et pour eux, c'est un changement, surtout Coquille dans des rues. Je crois que c'est une des usines où on était, je veux dire, il y avait le patron était le beau-père de famille, M. Bernard, c'était encore familial. Et puis M. Bernard a pris sa pension, est parti. des événements sont arrivés, que tout a changé, une nouvelle direction, les conjonctures actuelles qui n'étaient plus favorables, donc des restructurations il y a eu. Et ça fait des dégâts. Il faut dire à des types, voilà, vous prenez la prépension, beaucoup plus sévère pour le manquement des gens qui venaient, je viens pas travailler aujourd'hui, je ne suis pas bien. Ben bon, comme partout, mais bon, il y a un moment, on a dit maintenant, halte là. Donc et ça, c'est pas toujours évident de gérer ça, surtout quand il y a les conventions, les augmentations de salaire, les gens qui changeaient de poste, qui ont demandé plus de flexibilité, qu'avant, ils n'étaient pas habitués à ça. En disant, ouais, je vais bien faire ça, mais pour le salaire, alors c'est tous des trucs qu'il faut négocier, et c'est pas toujours évident. Alors une anecdote, c'est qu'avant, ici, c'était un syndicat, il y en avait qu'un, c'était FGTB. Alors, puis la CSC, avec quelques membres, a renversé. La CSC a fait la même chose. Ici, le syndicat, c'est la CSC. La FGTB était là, mais les entreprises, c'était toujours la majorité. Et puis, les années ont évolué. Et quand je suis passé, j'ai toujours dit, on ferait deux délégués. Mais un, si aux élections, celui qui gagne, devient le principal. Mais il y aura un délégué principal à la FGTB aussi. Donc, on sera à deux. Et il y aura un président des délégués. C'est celui qui remporte les élections. Donc, moi, j'étais le président. Et le principal. Mais Daniel Feder était. Oui. Mais il avait aussi bien son mot à dire que moi. Bon, s'il y avait une décision importante qu'il fallait trancher, bon, ben, c'est moi qui tranchais. Mais je veux dire que Daniel Feder, qui était le dernier délégué principal avec moi, on s'entendait bien. Et si on aurait eu ça beaucoup plus tôt, on n'aurait peut-être pas eu les problèmes qu'on avait dans le temps en disant ouais, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et la FGTB voulait ça, la CSC venait toujours. Bien. Dans les deux cas, d'un côté ou de l'autre, c'était comme ça que ça allait. Avec le recul, maintenant, disons que ça va, mais prépensionné, je suis. J'étais le dernier ouvrier de Coquerie dans des rues à avoir son préavis en tant qu'ouvrier, parce que j'avais 50 ans le 15 avril, et donc j'étais le dernier en 2003, sauf ceux qui sont malades, qui sont toujours sur le pré-rôle de Coquerie en longue maladie. Mais je veux dire, effectif, j'étais le dernier.
Le dernier.
Enfin voilà, un peu de regret, mais bon, les choses font que c'est vrai que c'était voulu. Et aussi bien du côté politique, on n'a pas persévéré pour dire, écoutez, on va injecter, on va essayer de voir quoi, mettre de l'argent ou dire, tiens, il faudra faire ça et ça. Et, parce que même les Italiens, les Espagnols, on avait eu des contacts et tout ça, qui auraient bien voulu venir ici parce que le coq d'Andrilu était réputé européen, même mondialement. Et c'est malheureux qu'on a encore perdu un produit belge. Enfin, voilà.
C'est quand c'était l'hiver, que faisait bien froid, et ben, il y a des périodes où c'était beaucoup plus calme. Hein. On faisait, au lieu de faire 10 fours par jour, on en faisait quelquefois que 5, quand c'était fort, fort calme. Hein. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter carrément les fours. Alors les hommes, normalement, moi, il fallait les commander pour soit nettoyer ou bien ci ou bien là. Je leur disais, allez, dépêchez-vous autres. Un coup que vous avez fait votre travail, allez vous cacher.
Ils viennent se cacher ici, alors.
Faut pas être... c'est des ouvriers comme nous, hein, c'est la vérité. Hein.
Oui,
qu'est-ce que je vous disais? Toute l'eau des bassins là-bas, il y a deux grands bassins. Hein, ce côté-ci, où ce que vous voyez les lignes blanches là, ben, c'est deux grands bassins, il y en a un de ce côté-ci et l'autre par là. Et alors, ça retombait de ce wagon là en dessous. Et puis l'eau du wagon, elle retombait dans les trois bacs qu'il y a là. Voyez, il y en avait un qui récoltait tout. Toutes les grosses poussières restaient dans le premier. Ben, il y en avait un deuxième, parce qu'il y a toujours du flux. Hein, ça fait... Ça retombait dans le troisième, puis ça retombait dans le troisième plutôt. Premier, deuxième et troisième. Le troisième, là, il y avait deux pompes qui repompaient les eaux et qui renvoyaient les eaux ici au-dessus.
Et c'est dans lequel qu'il y a quelqu'un qui est tombé dedans?
Hein?
Il y en a un qui est tombé
ouais,
dedans.
Oui, mais il y a des années, moi, je n'ai pas connu ça.
Vous n'avez pas connu ça? Sainte-Barbe, pareil.
Sainte-Barbe. Oui, il était cuit.
C'est le seul tué qu'il y a eu ici.
Ouais,
ouais. Est-ce que c'était votre bureau ou pas?
Ouais, par là.
Bon, on va prendre une photo dans votre bureau. Hein.
Ouais, on appelait ça un bureau. Et alors, quand c'était Nous autres, c'était ça, barbe qu'on faisait. Hein. Et on avait. On nous retirait à four. C'était la période qu'il y avait tout de même un petit peu de travail. On nous retirait à four seulement. On avait droit à 2 heures de gaz. Mais il nous fallait faire, au lieu d'avoir 10 fours, on avait là, on avait 9. Il nous fallait faire le travail de 8 heures, de sur 6. Ben, on n'avait pas le temps d'arrêter. Hein. Ça fait, moi je disais à les gens, allez, hop, et ça sortait, hein, et ça sortait les fours. Tous les demi-heures, ils sortaient 2 fours. Hein. Normalement, il y a des heures à se respecter. Hein. Et bien, tous les demi-heures, il y avait quelquefois 1 heure, minuit, on avait fini, de 10 heures au soir à minuit, on avait tout fini, les fours, et après, hop, on faisait ça, bap. Non, moi, je n'ai pas en plainte de mon équipe. Ah. Ça, j'avais une très bonne équipe. Ça, c'était le réfectoire. Il était propre, hein? Hein? C'était propre, hein? Et ça, c'était le bureau.
Non, c'était votre bureau.
Ouais.
Enfin, le bureau des surveillants.
Ça, c'est le cahier de four. Parce que toutes les 8 heures, le premier, il relevait à 6h30, 7h au matin. Puis le deuxième, il relevait vers 2h, 2h30. Et le troisième, il relevait. Mais seulement, on devait compter toujours à quelle heure que le premier a été enfourné. Oui, on devait compter, on devait regarder sur l'heure des fours qu'on enfournait. Et après, on comptait, il fallait. Il y a des fois c'est 36, il y a des fois c'était. Je ne sais plus. Tout de même dans le 20, 20, 28 par là. Eh bien, il nous fallait compter pour toujours avoir 8 heures de décalage entre chaque chose. Et ici, ça, c'était le pouvoir calorifique, ça.
Ah, d'accord.
Oui. Parce qu'un four, s'il n'avait pas, nous autres, on appelait ça le pouvoir calorifique, s'il n'avait pas 1250 degrés, on faisait l'addition de tout ça, puis on nous donnait une correction de par là, de ce côté-là. Et pour, avec tout ça et la correction, on devait avoir 1250. Au-dessus, c'était bon, mais en bas, c'était pas bon. Les fours, on avait une flamme, mais elle ne chauffait pas comme elle devrait chauffer. Ouais.
Et ceci, c'est quoi exactement cette machine?
Ça, c'était l'appareil du coquard, ça. Parce que pour finir, ils ont décidé de mettre. Ils ont dépensé des sous qu'il ne fallait pas. Hein. Et pour ne plus mettre un homme là-bas au coquard, parce que c'était un homme qui dirigeait. Eh bien, c'était avec ça, et c'était pour eux avoir plus ou moins les heures. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait toujours de ceux qui trichaient. Hein. Ouais. Ça.
Et ici, c'était pas la commande du coquard, parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de boîtier là-bas avec une petite manette. Là.
Hein?
Il y a un boîtier avec une manette là-bas, c'était ça qui commandait.
Oui, c'est ça, là-bas. Il y avait une tour alors. Au bout des deux cornières, ici, là. Il y avait une tour, là. Il y avait une tour, et alors, avec une poignée, qu'on faisait aller le coquard par là, ou bien de ce côté-là. Hein. Et alors, il y avait une vanne qu'on ouvrait, parce que c'est un mouvement de va-et-vient, là. Et si on ne remplissait pas les bacs là-bas, toute l'eau. La pompe, elle continuait toujours à tourner. Et alors, ça repassait dans la vanne là, mais ça ressortait dans les bassins directement.
Ah oui.
Mais une fois que la vanne était fermée, hop, ça montait directement là-bas au-dessus.
Ah oui, d'accord.